France Inter.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
On passe une semaine à New York, on peut manger 70 ou 75 cuisines du monde. C'est fantastique et ça, je pense pas qu'il y ait d'autres villes au monde qui l'offrent aujourd'hui.
Le jour où je suis arrivé ici, j'ai commandé des fettuccine et sauce marinara, j'ai eu des New York ketchup.
Continuer Russ and Daughters, surtout dans une ville comme New York, où tout change tellement rapidement que garder ces endroits d'histoire, ces goûts qui sont un lien à nos origines, qui sont un goût de cette ville, c'est tellement important et ça me donne beaucoup de joie.
Bonjour à toutes et tous, hello everybody, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. On dit souvent de New York que c'est la ville qui ne dort jamais. On va vous montrer que c'est aussi la ville qui mange à toutes les heures, à tous les râteliers, de toutes les influences, de la street food au fine dining, plongé dans le ventre de New York City. Et nous allons voir que ça gargouille sévère dans les entrailles de la grosse pomme avec nos reportages sur place, nos recettes, nos chroniqueurs et bien entendu nos invités en plateau. Marc Grossman, bonjour.
Hey, bonjour.
Vous êtes le plus new-yorkais des cuisiniers restaurateurs parisiens à la tête de... Alors, je compte, j'ai la liste des restaurants sous les yeux. 1, 2, 3, 4, 5. Dites-nous un peu vos enseignes.
Donc, ça a commencé avec Bob's Juice Bar dans le 10e.
C'est ça.
Après, on a Bob's Bake Shop. C'est un peu le flagship, c'est plus grand dans le 18e. Mm-hmm. C'est là où on fait des bagels et parfois des bialy maison.
On va voir ce que c'est avec vous.
Après, on a Bob's Café dans le MK2 Bibliothèque, le cinéma. Café. Après, on a Holiday Café dans le même arrondissement que la radio, dans le 16e, où aujourd'hui on fait des pancakes tous les jours en fait, mais surtout les dimanches. Et on a aussi un bar, Bob's Bar, qui est éphémère au théâtre Nanterre en Mandier.
Bref.
Et la collaboration précieuse avec Shakespeare & Co.
Tout à fait. Voilà. Donc vous n'arrêtez pas et vous êtes né à Manhattan, dans la communauté juive new-yorkaise.
Ouais.
Vous rendez hommage aussi à New York City dans un livre qui est devenu un classique pour les gourmets, on peut le dire. Moi, je cuisine très régulièrement vos recettes. Je suis d'ailleurs votre carrière depuis vos tout premiers pas, il y a maintenant plus de 20 ans. New York, les recettes cultes aux éditions Marabout. Ce livre est encore disponible et franchement, ces recettes sont excellentes. On va le voir avec vous. Et d'ailleurs, on n'en dit pas trop, mais vous nous avez apporté une recette salée, une recette sucrée typique de New York. Vous allez nous les faire goûter dans un instant. Loïc Bienassi, bonjour.
Bonjour.
Notre historien dans la bande dont on va déguster. Alors, on connaît votre passion pour Paris, hein. Co-commissaire de notre exposition à la Conciergerie, Paris capitale de la gastronomie. Vous avez écrit avec moi et Stéphane Sollier, Paris Ripaille, le nouveau podcast de France Inter, mais vous avez aussi une passion secrète pour la cuisine américaine en général et la cuisine de New York en particulier.
Pour New York en général aussi, c'est-à-dire que vraiment c'est une ville tellement fascinante, tellement plaisante, enfin, et pour sa cuisine, pour tous les aspects de sa cuisine, et je sais qu'ils sont nombreux.
Eh bien on va le voir avec vous, vous allez nous raconter pas mal de très belles histoires, ils font partie du voyage, ils nous accompagnent tout au long de cette émission. Ce sont nos chroniqueurs, Madame Cucina Italiana, Alessandra Pierini et Monsieur Cinéma, Laurent Delmas, s'il vous plaît. Bonjour à tous les deux.
Bonjour,
bonjour, ciao, ciao.
Alessandra.
Bon, beaucoup de choses à dire aujourd'hui, et beaucoup de choses à déguster. Ça sent bon, c'est quelque chose de croustillant, croquant et parfumé.
Et d'origine italienne, bien enracinée dans le paysage new-yorkais. Mais on n'en dit pas plus. Laurent.
Ben vous savez, Bertrand Tavernier disait qu'il se passe toujours quelque chose autour d'une table. Et il nous en fait profiter dans ses films. Les cinéastes américains en font toujours de même.
On va le voir avec vous. Pour interagir en direct dans l'émission, envoyez-nous un mail à onvadéguster@radiofrance.com ou bien cliquez sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Et pour consulter tous les contenus de l'émission, adresse, recette, podcast, j'insiste sur les adresses car on vous a fait un grand et long carnet d'adresses de mon New York disponible sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Boulimique, affamée, survoltée, audacieuse, ouverte sur le monde, on emploie tous ces superlatifs pour décrire la scène gastronomique de New York et rien ne semble pouvoir freiner son incroyable vitalité. Marc Grossman, pourriez-vous définir cette food scene de New York à quelqu'un qui n'y a jamais mis les pieds?
on dit souvent que New York, c'est le melting pot, c'est-à-dire que tous les gens viennent de tout le monde, Irish, Italian, Jewish, Chinois, Coréen, donc tout se mélange à New York et on garde les racines et les identités et ça s'arrête pas. Et aujourd'hui, ça fait un moment, moi je suis en France, donc même pour moi, ça me choque un peu la vitesse de l'évolution de la nourriture à New York et comment ça s'arrête jamais. Moi, je suis un peu dans la cuisine new-yorkaise de mon enfance, souvent. Et ça devient de plus en plus nostalgique parce que l'écart entre ce New York-là et le New York d'aujourd'hui...
Qui est un New York totalement frénétique. On parle effectivement de patchwork culinaro-culturel. Est-ce que ça suffit, Loïc Bienassi, à définir une cuisine new-yorkaise?
C'est toujours difficile de définir une cuisine d'un lieu donné. Je crois qu'il y a deux volets à la réponse. C'est d'abord un corpus de recettes, on va dire, de préparation, de plats, qui sont, j'allais dire, identitaires. C'est-à-dire que les New-Yorkais se reconnaissent dans tout un panel de préparations. Et le monde reconnaît ces préparations comme étant new-yorkaises. Et ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'elles restent confinées à New York, loin de là, parce qu'une ville comme New York, évidemment, rayonne. Je crois que c'est la première réponse. Et la deuxième réponse, c'est un peu ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'en effet, on repère toutes ces strates différentes. On pourrait même remonter aux Hollandais. New York a été fondée en 1624, New Amsterdam, et ensuite reprise par les Anglais, qui en ont fait New York. Mais j'ai envie de dire, même les donuts, par exemple, ce qui, la culture du beignet, on l'a fait souvent remonter aux Hollandais. Donc on pourrait même remonter si loin pour découvrir les strates. Et évidemment, ensuite, la liste est longue, grec, irlandais, comme on l'a dit, italien, bien sûr, juif, allemand, etc., etc. Et puis, aujourd'hui, encore une nouvelle vivacité autour des, des cuisines, les Haïtiens, par exemple, qui sont une communauté très vivante à New York. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a cette stratification, mais c'est pas juste chacun apporte, c'est aussi ensuite des mélanges, des réinventions, des réinterprétations qui créent quelque chose de nouveau. Donc c'est à la fois cette diversité du monde, ça que tout le monde reconnaît, mais aussi la création de quelque chose d'autre propre à New York. Et je pense qu'on le verra à travers différents exemples.
On va en parler dans un instant justement. Du brassage, du métissage, une sacrée melting popote que l'on déguste et que l'on décrypte et découvre ensemble dans un instant. C'est Laurent Thomas qui réalise cette émission avec à la technique Tiffany Battistel, Fabrice Rivaud pour la préparation et la production de l'émission. On dévore New York par le menu, avec les doigts, une fourchette, des baguettes, juste après ce qui est peut-être bien devenu un hymne de la ville, Empire State of Mind de Jay-Z avec Alicia Keys, choisi par Chewbacca. Poussez les meubles dans votre salon, faites du bruit, lâchez-vous, on va déguster New York. Yeah, I'm out at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to De Niro. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's. Took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down, spiked out. I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from.
With OG at a Yankee game. Shit, I made the Yankee hat more famous than the Yankee king. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot. Corners where we selling rock. Africa been by the shit. Home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners, it ain't fair. They act like they forgot how to act. Ain't you a liberty? Long live the world trade. Long live the king, yo. I'm from the Empire State. That's to the bright light, babe. Make you feel brand new.
On commence notre périple à New York en s'attablant avec notre amie Pascaline Lepelletier. Vous la connaissez peut-être, elle est française, sommelière de réputation internationale chez Chambers, un excellent bistrot à vin du quartier Tribeca. On lui a d'ailleurs consacré une émission il y a quelques mois et c'est une femme passionnante. Pascaline m'emmène dans l'une de ses adresses préférées à New York. Nous sommes au cœur de Downtown, juste à côté de Gramercy Park et du Flatiron Building. Bienvenue chez Gramercy Tavern.
C'est dans son jus, il y a un décor un peu rustique, il y a une atmosphère extrêmement familiale, ça pète de couleurs, ça pète d'ambiance, il y a une atmosphère vraiment particulière, très rare à trouver à New York en fait. On sent qu'il y a une âme très forte qui vit dans les meubles, dans le sourire des serveurs, dans l'atmosphère des clients, dans la cuisine. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment un endroit magique de New York. Et en fait, il y a deux endroits. Ici, on est dans la taverne même, et il y a un restaurant gastro, mais la taverne, elle est ouverte toute la journée. Et on sait très bien qu'on va très bien manger, un super rapport qualité-prix. Donc, vraiment, voir des New Yorkais, vous venez ici tous les jours. La cuisine de saison, la cuisine de circuit court, ça a été dès le départ, ça a été comme ça. Donc on a vraiment une garantie de superbe qualité de produits, des engagements avec les fermiers, avec les producteurs de viande, les pêcheurs. Et vous savez que ce que vous allez manger, ça va vraiment être de la meilleure qualité possible, abordable pour quand même beaucoup de gens. C'est fort d'avoir fait ça.
Ici, on est dans des plats de brasserie américaine, en fait.
Plutôt new-yorkaise même, hein, parce que... On sent quand même qu'il y a une influence un petit peu européenne au niveau des techniques. Matinée ici ou là d'un peu d'inspiration d'autres pays du monde, que ce soit dans les sauces, que ce soit dans certains ingrédients comme les ajidouche peppers par exemple, ou probablement dans les préparations d'épices. Parce qu'il saute aux yeux quand on regarde la carte, c'est le produit. Hein. C'est une cuisine relativement étonnante parce qu'il y a vraiment beaucoup de légumes. Ça nous fait réaliser que New York, c'est un état agricole. Le New Jersey, en fait, tout ce qui nous entoure, on est vraiment sur des très très beaux états agricoles avec un choix fantastique, en fait. Donc ça change un petit peu aussi de l'image américaine où on se dit que c'est que de la frite et, et du burger. C'est un peu plus compliqué que ça.
Évidemment, il y a quand même un burger.
Un burger, c'est un des meilleurs burgers de la ville, sans aucun doute. Ah ouais, parce que je pense d'ailleurs que je vais prendre le burger. Parce que quand je viens ici, c'est un peu... Ouais, c'est une petite Madeleine de Proust parce que je suis venue à Gramercy la première fois que je suis venue à New York en 2008. C'était obligatoire que j'aille à Gramercy. Et c'est toujours une des meilleures cartes des vins de la ville, meilleures cartes de cocktails. Enfin, il y avait tout, quoi. Et quand on a ouvert mon premier restaurant ici, le groupe auquel je travaillais, pour moi, le rêve, c'était de faire comme un Gramercy Tavern, quoi. Parce que c'était juste magique. C'était magique.
So, four burgers.
And the burger comes with bacon and white cheddar. Is that okay with everyone?
Yep.
Perfect, my favorite answer. Thank you very much.
Thank you.
Voilà, en plus, ils ont grand amour de la bière aussi. C'est une des meilleures cartes de bière de la ville. Donc, je suis à chaque fois, je regarde la carte avec admiration parce qu'elle est top et une personnalité. Il y a des vins pour tout le monde. C'est top d'avoir des endroits comme ça.
We have the tavern burger done for you with duck fat potato chips. For you, my dear, the duck fat potato chips as well.
Le voilà.
Ce qui est bien aussi ici, c'est qu'on n'est pas dans la démesure américaine avec le côté trop. C'est un restaurant qui a aussi fait pas mal de choses depuis le départ sur moins et mieux. Donc c'est vraiment, en termes de portions, ça va être raisonnable. Je pense qu'un petit estomac comme moi va pouvoir le manger sans trop de problèmes.
Et il y a une sauce à côté qui, paraît-il, est assez caractéristique de la maison.
Oui, ça a l'air d'être une petite gribiche, mais ça, je ne sais plus exactement ce qu'est la composition de la sauce.
Waouh, fumée.
Ouais. Oh, c'est bon. L'apport du fumé, il va pas être probablement dans le bacon, il va être dans la sauce. Hein. J'ai parlé à bouche pleine, hein, c'est pas poli. Hein. Bah, c'est délicieux. Hein. La viande comme il faut, pas trop grasse. Le croquant du bacon, pas trop salé. Le fromage qui vient juste donner une petite onctuosité et la qualité du pain. Quoi, voilà. Ça, c'est un vrai burger. Hein. Un vrai bon burger comme on les aime.
Merci.
Avec plaisir.
À table, avec Pascaline Lepelletier, ça donne faim chez Gramercy Tavern à New York. Et je confirme que ce burger est excellent avec ses potatoes maison. Mais il faut quand même compter 32€ le burger. Prix raisonnable à New York n'a pas forcément le même sens qu'en France. Hein. Traquer le bon burger à New York, c'est vraiment un sport de gourmet qui demande beaucoup de patience et d'énergie parce qu'il y a une offre contrastée, très pléthorique. Il y a en tout cas... de bonnes références dans votre livre, Marc Grossman, New York, les recettes cultes chez Marabout, le pain à burger, une recette, le cheeseburger, une recette, le veggie burger, le burger aux aubergines. Vous aimez le burger ?
J'aime bien les burgers, mais ces derniers temps, je mange très, très peu de viande. Donc, ça serait surtout les alternatives. Et ça donnait envie à ce reportage. Et je connais bien le quartier. C'est où j'ai habité avant de quitter les États-Unis et venir en France. Et il y a un grand marché à côté, Union Square Market. Donc, ça ne m'attend pas que c'est des choses locaux. Mais c'est des choses qui sont arrivées, cette tendance de manger local. C'était après, je suis parti.
Ah non, moi j'ai entendu court et local. Pour moi, c'était pas du tout New York.
Et ben voilà.
Bon, que nos amis parisiens en prennent de la graine.
Absolument. Oh, ils en prennent de la graine.
Ah, ils commencent à en prendre de la graine, mais pas si près que ça. Hein.
En tout cas, faut
rapprocher la graine encore.
Il y a de plus en plus de ressources qui viennent effectivement directement des alentours de New York, où il y a de plus en plus de fermes vertueuses qui ouvrent. Loïc, les guides touristiques aiment à raconter que, selon une légende, que le burger viendrait de hamburger et que hamburger viendrait de la ville de Hambourg. Évidemment, vous allez nous dire que ce sont des sornettes.
Alors, comme j'aime vous contredire, je vais vous dire que c'est vrai.
Non.
Vous dites blanc, je dis noir. Vous dites noir, je dis blanc. La réalité, c'est qu'en fait, deuxième moitié du 19e siècle, la viande hachée apparaît un peu partout et on est à un moment là où l'immigration allemande est très forte. On estime qu'en 1880, un tiers de la population de New York est d'origine allemande. Et on a des restaurants, des boucheries. Donc, on associe beaucoup les allemand à la boucherie, et notamment ces hamburger steaks, qui là sont des steaks hachés, en fait, hein, tout simplement. Alors, pas toujours avec une bonne réputation. Hein. Et la question, c'est quand est-ce qu'on bascule du hamburger steak au sandwich ? Tout un tas de villes prétendent à cela, à cette invention, difficile de savoir, en réalité, donc je ne m'y aventurerai pas. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, dans les années 1890, on trouve des hamburgers tels qu'on l'entend un peu partout aux États-Unis. Parce que là, je crois qu'on n'est pas non plus dans un plat new-yorkais iconique. C'est-à-dire que en effet, on en trouve partout à New York. En effet, c'est indissociable de New York, mais c'est pas un plat totem, je pense, pour New York. Là, contrairement à d'autres...
C'est davantage un emblème américain, finalement.
Oui, je pense, plus que new-yorkais. Mais il est vrai que, parfois, dans l'entre-deux-guerres, aux alentours de Times Square, certains qualifiaient, parce qu'il y avait une multiplication d'établissements vendant des hamburgers, qualifiaient le lieu de Hamburger Row, c'est-à-dire un peu l'alignement des hamburgers, si on veut.
Avec le quartier Meatpacking, qui a été le quartier des abattoirs, où l'on traitait la viande, hein, et on la découpait. On passe à un autre emblème comestible. Alors, très new-yorkais, celui-ci. Comme le burger, il est question de pain. Comme le burger, il est question de sandwich. Comme le burger, il se mange avec les doigts. Et comme le burger, il commence avec un B.
Un B. Moi, je pense que je connais la réponse, mais je ne vais pas dire.
Alors,
le hot dog.
Le bagel.
Le bagel.
Le hot dog, on y viendra un peu plus tard avec
bagel,
vous, le Genassi, bien joué. Donc, c'est le bagel. On donne comme définition que le bagel, c'est un trou avec du pain autour. Hein, un pain en forme d'anneau.
Fait à l'eau.
Voilà, il était chaudé. Dans l'eau bouillante, hein.
Oui, parce que ça c'est important et souvent on triche sur ce point-là. Donc c'est...
On le garnit, on le déguste. Alors moi,
garnir, ça, je pense, ça a commencé à New York surtout. Il y avait genre une version nature, une version sel, quand les Polonais sont arrivés. Après, on a ajouté les sésames, les pavots, et c'était le scandale. Quelqu'un a eu l'idée de mettre cannelle et raisins secs. Et aujourd'hui, ça va être du cheddar, bacon,
c'est
machin.
Ça. Ben voilà, c'est devenu un sandwich en quelque sorte. J'en ai dégusté un paquet de bagel sandwiches à New York. Et j'affirme que l'un des meilleurs s'achète dans une échoppe du quartier de Lower East Side, Russ and Daughters.
Ouais.
Je suis allé à la rencontre de Nikki Russ Federman, quatrième génération de cette maison historique, qui, en plus, vous allez l'entendre, parle un excellent français.
Russ and Daughters a été fondé par mon arrière-grand-père, Joel Russ. Il est arrivé à New York en 1907, d'un petit village qui aujourd'hui fait partie de la Pologne. Et il a passé 7 ans, depuis 1907 jusqu'à 1914, dans la rue. Il vendait les harengs aux autres immigrés pauvres, juifs, de l'Europe de l'Est. Et voilà, il a réussi à ouvrir un petit magasin. On est dans la boutique originale. Et voilà, notre cuisine s'appelle appetizing. Il n'y a pas vraiment de traduction pour ce mot. C'est une cuisine traditionnelle qui a été créée ici à New York par les immigrés, comme mon arrière-grand-père, juif, ashkenazi, qui cherchaient la nourriture de ses origines, mais qui aussi, ils ont inventé une nouvelle tradition avec les ingrédients qu'on avait ici. Et donc, ce n'est pas une coïncidence que Russ & Daughters est à côté de Katz's, qui est un délicatessen très connu, parce que nous sommes des entreprises complémentaires. Donc, le delicatessen, c'est où on va pour manger et acheter des produits de viande. Par exemple, pastrami, corned beef, très très connu, délicieux. Mais appetizing, c'est où on va pour manger les harengs avec des sauces différentes. On a 8 à 10 types différents de saumon fumé, le cream cheese, les bagels. À l'autre côté du magasin, il y a les...
La confiserie,
les babka, les rogolor, les galettes très connues de New York, black and white, noir et blanc. Et cette combinaison un peu rare, c'est appetizing.
Je m'appelle Julien, ça fait 5 ans que je suis ici à New York. Je suis venu ici pour tenir une boutique de fromage. Et alors Neki était une de mes clientes. On s'est bien entendu et puis voilà, j'ai atterri ici à Alina. Are you making a sandwich for us?
Yes, I'm making a sesame first.
Alors, on commence par la découpe du bagel. C'est un bagel à graines de sésame. C'est le bagel préféré des francophones, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi.
Donc là, il y a une machine à toast, hein, un toaster.
Alors, il y a deux écoles. Hein. Il y a ceux qui pensent qu'il ne faut jamais, au grand jamais, toaster un bagel. Alors, on est en train d'étaler le cream cheese sur le bagel. Et alors là, vient le geste technique, on cherche dans l'idéal 2-3 très très belles tranches de saumon fumé. Et là, on est vraiment au cœur du saumon, c'est-à-dire on est vraiment sur un saumon super gras, pas trop salé, enfin vraiment délicieux.
Elle a le geste très agile et précis.
Ah, complètement, ouais. Très très impressionnant. Alors après, à la demande du client, on peut rajouter des tomates, des oignons, des capres. Évidemment, on ne fait pas de mayonnaise.
Et elle vient de le trancher en deux. Ça, c'est le papier sulfurisé, en fait, qui sert à emballer les bagels.
Tout, hein, ouais, les bagels, le saumon, voilà, les poissons.
Merci beaucoup.
Okay, thank you very much. Au
revoir. Merci. Et je peux vous poser une petite question?
Oui.
Vous êtes touriste à New York ou vous habitez ici?
Non, j'habite ici, je suis en internship, en stage. Du coup, je suis ici pour 6 mois. Par contre, c'est mon premier bagel. J'ai fait pizza, burger, tout ça, mais j'ai pas fait encore... classique bagel. Pour un premier bagel, c'est sympa de le faire ici. Donc, malgré l'attente et le monde, je pense que ça va être worth it. On verra. Je pense que ça vaut le coup.
Bon appétit, merci.
Merci.
Un petit tour chez Russ & Daughters, qui ouais. N'est pas, hein, donc, bah, moi je faisais l'erreur avant, qui n'est pas du tout un delicatessen ou un deli, on l'a bien compris.
Ouais.
On dit plutôt appetizing store.
Appetizing store, oui. Parce que deli, pour moi, c'est vraiment le Katz, par exemple, et c'est où on a la viande. Et c'est pas spécialement un truc de bagel. Probablement, ils ont un choix bagel dans les choix de pain, mais ça, c'est pas ce qu'on mange typiquement. Typiquement, ça va être d'autres pains, le jour seigle, avec pastrami.
Loïc Bienassi, le bagel, là, pour le coup, on peut parler d'un emblème comestible new-yorkais et d'une des recettes les plus connues de cet immense héritage juif.
C'est sûr, alors là c'est incontestablement le cas, mais la trajectoire est assez intéressante. Bon, les premières occurrences du mot, peut-être au 15e siècle en Europe de l'Est en général, et comme d'habitude, le mot devait recouvrir des réalités un peu variées. Il faut pas imaginer le bagel actuel existant dès le 15e siècle. Le mot était là, la chose là, c'est rien n'est moins sûr. Mais c'était pas spécifiquement juif en Europe et c'était pas identitaire du coup, logiquement. Et en fait, c'est à New York que ça l'est devenu. À partir des années 1880, des boulangers juifs commencent à commercialiser ces bagels et ça va devenir une spécialité juive à New York. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'un des grands modes de consommation des bagels, c'est de mettre du cream and cheese et du lox, ce qui aujourd'hui est du saumon fumé. Et donc, ça devient un emblème juif new-yorkais, un emblème new-yorkais, alors qu'à l'origine, le lox n'était pas spécifiquement juif. Le cream and cheese, c'est une invention de l'État de New York, hein, ce cream cheese, pardon, qui a été inventé, le Philadelphia, hein, malgré le nom, c'est ça, hein, ça a été inventé dans l'État de New York dans les années...
Nous, on a le Saint-Maurais.
C'est ça. Dans les années 1870, peut-être un peu moins salé, peut-être le cream cheese, que le Saint-Maurais. Et donc, c'est un assemblage très américain qui est devenu, en effet, un étendard de la cuisine juive new-yorkaise.
Et rappelons aussi, mais on a déjà eu l'occasion de parler de ce phénomène, qu'il y a une compétition à couteau tiré entre deux grandes villes d'Amérique du Nord pour le bagel. Puisque Montréal revendique aussi, hein, il y a une communauté juive à Montréal qui fait un bagel un peu différent. Mais en tous les cas, ce sont les deux grandes
Et qui sont arrivés à New York, paradoxalement, récemment. Donc, il y a une chaîne de bagel shop qui vend des bagels style Montréal. Black Seed.
Black Seed Bagel.
Mais je peux rien dire, parce que j'ai jamais eu le bagel.
Moi, j'ai goûté. Oui, d'accord. C'est Elizabeth Street dans Nolita. Ah, ouais. Black Seed Bagel Black avec Montréal Style Bagel. Ouais. Et c'est superbe.
Oui, mais je pense que c'est un hybride.
C'est un hybride.
Quelqu'un m'a dit qu'ils ont du sel, ils ont la menthe et pas le miel.
C'est
donc,
ça.
Peut-être qu'ils ont le gros trou qui est un peu le visuellement. C'est quand...
Dans votre livre, Marc Grossman, il y a évidemment des recettes de bagel, mais oui. Vous évitez quand même soigneusement l'obstacle en préférant vous tourner vers un pain plus simple à préparer à la maison, qui est aussi d'origine juive, qui est new-yorkais, qui est... rond comme un bagel, mais ouais. Un peu différent.
Oui, c'est le bialy. Dans les bagel shops new-yorkais, il y a, avant, au moins, il y avait toujours des bialy. Et le bialy, c'est pas un bagel parce que c'est pas fait dans l'eau. C'est pas la même pâte, déjà, pour moi, au moins. Mais ça ressemble à un bagel parce que c'est creusé au centre. Ça fait en sorte que quand on tranche le pain, d'un côté, il y a un trou, de l'autre côté, il n'y a pas de trou.
Il n'y a pas tout à fait le trou du bagel, mais il y a une espèce
oui.
de creux.
Oui, c'est un peu comme un pain pizza ou un pain naan, c'est très simple.
Mais qui n'est donc pas échaudé.
Et il est moins élastique.
Il est uniquement cuit au four, mais il n'y a pas l'étape de la cuisson oui. dans l'eau bouillante.
Donc le bialy, il est là.
On a la recette pour faire ce pain sur franceinter.fr, ouais. à la page On va déguster. Et vous allez en plus nous le garnir.
Ouais. Donc j'ai fait, pour la garniture, j'ai fait whitefish salad, moins connu que le cream cheese salmon fumé. J'aime tout, mais j'adore le whitefish salad. C'est une salade un peu comme la salade de thon, un mélange de crème fraîche et mayonnaise, et c'est fait avec le poisson fumé. Donc à New York, on ferait avec du whitefish, c'est une sorte de poisson ou une gamme de poissons fumés, blancs et évidemment cachés. Et en France, j'ai fait typiquement avec les maquereaux
oui.
Fumés.
Alors vous allez carrément nous monter le sandwich en direct là.
J'ai fait en direct.
Alors on commence par couper les dialy ouais. en deux. Dans le sens de l'épaisseur.
Donc moi je suis, parce qu'elle parlait de deux écoles, est-ce qu'on grille ou on ne grille pas le bagel. Mais je suis absolument dans le groupe qui préfère de griller son pain.
Toasté.
Parce que les bagels, tout ce que j'ai du mal à manger, sauf les baguettes que je mange sans griller, parce que voilà, c'est parfait comme ça. Mais j'aurais préféré griller le bialy, mais ils sont cuits tout à l'heure, donc ils sont bien frais.
Génial, on vous
ça,
le pardonne.
C'est le whitefish salad.
Soyons clairs, le whitefish salad, on peut parler d'une rillette de poisson quand même.
Oui, c'est ça.
Alors, les assiettes de bialyse avec la circule. Whitefish salad, même si on a remplacé, on l'a compris, le whitefish par du maquereau, circule autour du plateau dont on va déguster. Quel régal!
Ah oui, c'est délicieux.
Pour un pique-nique.
Mais ou dans le train. Par exemple, si la SNCF pouvait s'en inspirer, enfin, on mangerait bien. Voilà.
Quel régal!
Il y a la fraîcheur aussi du bialy. Là, ouais.
Bien moelleux.
Très appétissant, oui. Un léger goût de fumée, mais qui relève tout. C'est délicieux.
Mais la macro fumée, c'est magnifique. Et c'est aussi un poisson qui est très sain. C'est tous les poissons avec plein de gras, petits poissons comme ça. C'est pas cher comme poisson, donc il y a plein de choses à dire. Par rapport au saumon fumé qui est très cher, mais délicieux, mais et probablement pas bien pour la planète.
Les bialyses au macro, un immense merci Marc Grossman. La recette sur franceinter.fr, à la page on va déguster. Ça, je peux vous assurer que cette recette ne va pas tomber dans les oreilles de sourds.
Absolument.
C'est le moment de Laurent Delmas. Je rappelle, cher Laurent, que vous animez avec Christine Masson. On aura tout vu, l'émission cinéma de France Inter le samedi à 10h. Et comme vous préférez la gastronomie au cinéma, c'est une notoriété publique. Vous jouez régulièrement les pique-assiettes dont on va déguster pour notre plus grand plaisir. Le cinéma de New York, un gros appétit. Vous nous avez préparé, attention, on va tout jouer autour du plateau dont on va déguster. Un petit quiz à la table du cinéma de New York.
Ah.
France Inter.
Allez, pour la visite de New York,
on va déguster.
Et comme vous êtes l'arroseur arrosé,
oui.
Il y a notre réalisatrice Laurent Thomas qui vous a glissé une réplique célèbre d'un grand film d'auteur.
Là, ce qu'on vient d'entendre.
Loïc, vous l'avez.
Les gendarmes à New York.
Le gendarme.
Le gendarme. Ah, y a.
Voilà.
Parce que c'est un grand moment de cinéma.
Oui,
absolument.
Jean Giraud, 1965. C'est à vous.
Tout à fait. Alors donc un quiz, on va jouer. Je vous propose un premier extrait. L'idée c'est que vous écoutez l'extrait et puis le premier qui le reconnaît a gagné.
Le bio micro tout simplement.
Absolument.
Ça va bien.
C'est bon, oui. Oui. Oh. 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 Oh, mon corps. Oui. Oh, oui. Oui. Oh, oui. 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 Oh. Oui. Oh. Oui. Oh, mon Dieu. Oh, oh oui. Oh.
Donnez-moi la même chose qu'elle.
Bon, alors qui là?
Alors
bah, quand Harry rencontre Sally.
Bravo, bravo. Ah. Meg Ryan qui simule un orgasme. On y reviendra. On passe au second.
Mm-hmm.
La bouffe italienne, elle vaut le coup ici ou pas?
Ouais. Essayez le veau, c'est le meilleur de New York.
Va pour le veau.
Capiche? Il faut que je parle italien avec Michael.
Vas-y.
Alessandra. Padrino. Le parrain, pardon.
Bravo, le parrain. Bravo, le parrain.
Et lequel, Alessandra Pierini?
Bravo.
Bon, en même temps, les parties pris. Hein.
Ah, non, bah, quand même. Non, non, c'est bravo. L'extrait était très court en plus.
Ah,
non,
ouais,
c'est très bien.
Ouais.
Allez, on passe au dernier. Et là, il faut vraiment bien tendre l'oreille. Mais vous pouvez reconnaître.
The Russian tea room,
right here. You're standing in front of.
Oh well, my star, so it is. Well, this is very embarrassing.
Hello, this is it.
Thanks very much.
À vous. Marc Grossman, là, je crois.
Tutsi. Incroyable. Ah oui, ça peut. Là, on est bluffé là.
Sans triche.
Bravo. Ah non, non, sans triche.
Sans triche. Je n'ai même pas. Je m'étais même pas conscient de dire à haute voix.
Non, non, c'était même pas pour le remercier de sa recette.
Là, on est embêté parce qu'il n'y a pas de quatrième extrait pour départager. Il y a un point chacun quand même.
Un point chacun. C'est magnifique. Formidable. Bravo. Non, non, très, très bien.
Égalité, hein. Match nul.
Bref, on va revenir sur les trois quand même en quelques mots, hein, pour dire que par exemple, bon ben le fameux orgasme de Meg Ryan, il se déroule dans un établissement que Marc Grossman, vous avez déjà largement évoqué, qui est Katz. À New York.
Je savais pas que c'était filmé à Katz. Okay.
Mais si, c'est chez Katz, créé en 1888.
Ah, okay.
Hein, donc c'est une vieille institution de la cuisine juive new-yorkaise, avec effectivement en porte-étendard le fameux sandwich au pastrami, qui peut, dans ce cas-là, hein, dans le cadre de ce restaurant, largement rassasier deux personnes de 130 kilos. Hein, et puis, il y a également le cornet de beef. Alors moi, ça m'étonne toujours, parce que dans mon enfance, le cornet de beef, en tout cas dans ma province... On appelait ça le singe.
Du singe, d'accord.
Oui, ouais. Tellement c'était peu apprécié. Voilà.
Ah,
donc,
oui.
Ah oui, absolument. Oui, vraiment.
Peu apprécié,
c'est un vieux souvenir de la Seconde Guerre mondiale.
Alors, j'allais dire même de la première, je crois. Le terme de singe, il me semble que c'était ça.
Voilà, c'est ça.
La provenance étant douteuse.
Mais en France, on n'en connaît que la version industrielle. Alors que
c'est peut-être. Oui, la canette, c'est pas la même chose.
Mais ce peut être une très belle préparation artisanale.
Mais non, mais bien entendu. Et le pastrami, ben, ça vient du deuxième moitié du 19e siècle par les immigrants juifs, évidemment. Ouais. On y sert aussi des knishes, j'ai très très mal le prononcé.
Oui, knishes, ça c'était pas mal. Ouais.
Ah, merci Marc, c'est gentil. Ce sont des boulettes aux pommes de terre et oignons, et puis alors je me lance tant pis, des latkes. Latkes.
Latkes.
Ah, oui, mais latkes. Il reconnaît à peine quand
knish,
je parle.
C'est un peu chausson, mais il y a plein de versions, mais il y a pommes de terre, mais ça peut être autre chose, mais c'est, oui, typiquement c'est pommes de terre. Et le latkes,
c'est
les
galettes.
Les galettes de pommes de terre. Ouf. Ça ressemble aux galettes en France, mais il y a des œufs et autre chose.
C'est un cousin éloigné du rosti suisse, pourrait-on dire, ou de la pomme paillasson.
Alors, on passe maintenant à Coppola. Vous vous souvenez, le parrain qu'Alessandra a si bien reconnu. Je vous rappelle que dans le parrain, par exemple, il y a des répliques du genre « Laisse le pistolet, prends les cannolis ». C'est quand même un costaud.
Le sens des priorités.
Il y a le sens des priorités. Les cannolis étant, Alessandra, des pâtisseries typiques siciliennes. On est d'accord, absolument. Donc, la scène qu'on vient d'entendre, elle se passe chez Louis. Je ne sais pas si vous connaissez cet établissement. Chez Louis.
Quelle scène de parrain?
C'est la scène qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire celle.
Je dois parler avec Michael.
C'est celle où Al Pacino est censé dîner avec le chef de la police qui est corrompu et un trafiquant.
Oui, elle a le pistolet dans les toilettes.
Il est en train d'aller chercher un pistolet dans les toilettes et après avoir commandé du veau, il va les tuer tous les deux.
Oui, et ça, ce restaurant est à Lille. Je ne connais pas le restaurant, non.
Voilà, chez Louis.
Je connais très bien la scène, mais je ne connaissais pas que c'était un vrai restaurant.
C'est dans le Bronx. La question est de savoir, puisqu'il a commandé du veau, on ne saura jamais si le veau est arrivé trop cuit ou pas. Après qu'il ait dessoudé deux personnes. Voilà, ça sera l'interrogation du film. Troisième extrait, c'était donc formidablement bien reconnu par Marc Grossman. Tutsi, c'est une scène essentielle parce que c'est une scène de dévoilement de ce personnage qui se transforme en femme, joué par Dustin Hoffman. Et ça se passe, Marc Grossman, dans le Russian Tea Room, qui est une des institutions de la cuisine russe, me semble semble-t-il, à New York, avec les serveurs en tenue russe. Hein, c'est vraiment typique, c'est ultra chic. Là, pour le coup, on a jusqu'à présent parlé de choses assez populaires et assez commercialement possibles. Là, vraiment, c'est du très très haut de gamme. La carte des vodkas est, par exemple, longue comme un jour sans pain sous Staline. Et les différents types de caviar qui y sont proposés justifieraient pleinement la taxation fiscale des ultra-riches. Ah, ouais. Donc, de ce point de vue-là, vraiment, c'est pas du tout la cuisine telle qu'on la sert. Alors, il y a des recettes comme le bœuf stroganoff, qui est vraiment de la cuisine de Russie. Et puis, le poulet à la mode de Kiev aussi, c'est une recette ukrainienne de blanc de poulet frit roulé autour de beurre à l'ail et aux herbes et frit. Ça, c'est déjà rien que de le dire.
Mais moi, j'ai déjà goûté, c'est bon.
Ça me met l'eau à la bouche. Hein, voilà. C'est l'illustration parfaite. C'est ce qu'on disait déjà beaucoup. New York, c'est aussi une sorte de capitale mondiale des cuisines de tout pays confondu.
Un grand merci, Laurent, de nous avoir fait voyager dans le cinéma de New York. Venons-en à la street food. New York City, évidemment, est connue plus que toute autre mégalopole pour sa nourriture de rue qui se consomme en tout lieu et à toute heure, dans les food trucks, dans les food carts à prix modique, ce qui d'ailleurs contrebalance un peu les tarifs souvent prohibitifs des restaurants gastronomiques. Et il est souvent d'ailleurs question de pain, Loïc Bianassi, évoquons bien entendu le bretzel, qui est un autre pain échaudé, c'est-à-dire plongé dans l'eau bouillante pour sa cuisson.
Alors dans l'eau bouillante, mais avec du bicarbonate de soude, ce qui fait la spécificité en fait du bretzel. Là, on est, j'allais dire, sur la strate allemande de l'héritage culinaire new-yorkais. Depuis les années 1860, on sait que se vendent des bretzels à New York. On a des photos notamment avec des bretzels sur des bâtons et des vendeurs ambulants comme ça, donc se promenaient et vendaient dans les rues ces bretzels. Et puis on a, j'ai envie de dire, le compagnon de route du bretzel aujourd'hui, dans justement dans ces cartes, c'est le hot dog, incontestablement. Et là aussi, héritage allemand. Alors, tout à l'heure, j'évoquais le hamburger allemand, viande un peu douteuse, d'où le surnom de hot dog, c'est-à-dire cette viande, on ne sait pas d'où elle vient. Donc, à partir des années 1860, ces saucisses, ces frankfurters, on soupçonne de dire « Ah, mais ce n'est pas de la viande de chien, donc voilà d'où vient, pourquoi on parle de hot dog ?» Et on estime souvent que celui qui aurait eu le premier l'idée de mettre ses frankfurters dans du pain pour en faire le hot dog qu'on connaît, ce serait un certain Charles Feltman, en 1871, à Coney Island. Il n'y avait pas encore le parc d'attractions, mais sur la plage, il avait sa petite baraque et il aurait eu cette idée-là. Je suis toujours sceptique face aux vraies inventions, mais peu importe.
N'hésitez pas à utiliser le conditionnel.
Je vais le faire.
C'est où il y a le Nathan's aujourd'hui, l'original, donc c'est venu pour.
Et en fait, Nathan's est censé avoir, le certain Nathan Handwerker, est censé avoir travaillé à l'origine pour lui.
Donc il a volé l'idée.
Exactement, ce serait l'idée. Et donc, voilà, à partir de là, on parle du hot dog dans les années 1890, l'expression est totalement installée pour qualifier ce pain, cette saucisse dans du pain. Voilà.
Mark Grossman, vous...
Je veux juste dire que Nathan's a les meilleures frites. Si jamais quelqu'un est à Coney Island, faut acheter les frites.
Parfait.
Nathan's, oui.
Le hot dog, alors je sais que vous avez considérablement réduit votre consommation de viande.
Oui,
pour
oui.
Autant, un beau hot dog, ça vous fait saliver ou éventuellement
oui,
une version veggie?
Oui, absolument. Hot dog dans la rue avec un Yoo-hoo à Central Park... qui sort de l'eau avec les oignons. Et moi, je prends tout, le ketchup, le moutarde, les oignons et le choucroute. C'est la satisfaction totale.
À avec quelques Youhou. Dollars.
Youhou, c'est le cacolac américain. Ils ont ça aussi. Les pretzels, j'ai jamais pris un pretzel dans ma vie. J'ai jamais vu quelqu'un acheter un pretzel. Pour moi, c'était plutôt décoratif à côté de hot dog.
Où c'est
je
éventuellement...
vois pas des gens achètent des pretzels. Je pense qu'ils restent les mêmes 5 exposés tout le temps. Mais...
Ils sont en cire, en fait.
Allez, je vous propose pour la dernière partie de cette émission de passer au dessert. Beaucoup de diversité pâtissière à New York, grâce notamment aux talents étrangers que cette mégalopole attire. Je vous emmène à Brooklyn, où je vais à la rencontre de Fanny Gerson. C'est une formidable pâtissière d'origine mexicaine qui fait des étincelles à la tête de son enseigne, la New Yorkina.
Hi, I'm Fanny. We are at our production
space. On est dans l'espace de production de mon entreprise, la New Yorkina.
La New Yorkina means the girl
qui veut dire
from
la fille de New York.
And we make Mexican
on y produit des esquimaux glacés mexicains
paletas,
que l'on appelle des paletas.
Ice cream and sweets, so anything
de la glace et autres sucreries mexicaines.
It's a warehouse type space.
Tout ça est fabriqué dans une sorte d'entrepôt situé dans le quartier de Red Hook à Brooklyn.
I think that New York is very unique, but
je pense que New York est un endroit unique, mais c'est toujours une lutte, un vrai défi.
the US, you find a lot of Mexican immigrants.
Ailleurs, aux États-Unis, il y a des Mexicains immigrés qui font de la cuisine. Mais moi, je voulais une touche gastronomique qui combinerait mon expérience de chef pâtissière et mon patrimoine culturel. Par exemple, prendre quelque chose qu'on vend généralement dans la rue, comme la paleta, et y ajouter quelque chose qui la rende vraiment spéciale.
Hello.
So, paleta is an ice cream.
Alors, la paleta, c'est une sorte de glace, de sucre réglacé sur un bâtonnet. Elle peut être à base d'eau, à base de crème, avoir des morceaux, être pimentée, lisse.
And we do Mexican, of course,
évidemment, on fait des parfums d'inspiration mexicaine. Au Mexique, on a par exemple un gâteau très populaire, une sorte de gâteau à la vanille imbibé de trois types de lait. Donc nous, on en fait une glace avec des morceaux de gâteau. L'horchata, c'est un de nos produits qui marche le mieux. C'est du riz toasté, de la cannelle mexicaine et des amandes. Beaucoup de ce qu'on propose est à base de fruits, aussi bien en sorbet qu'en paletas. Dès que c'est la saison, on en profite. Mais on a aussi des saveurs tropicales qu'on fait toute l'année. Noix de coco, par exemple, avec de vrais morceaux de noix de coco. Et c'est drôle parce que parfois, des gens qui n'ont jamais goûté de vraies noix de coco me disent
«
Il y a quelque chose dans ma paleta. » Bah oui, c'est de la vraie noix de coco. À part ça, on fait aussi des churros. On a aussi des petits gâteaux de mariage mexicain, les polvorones.
I'm making myself hungry.
Je me donne faim.
We want to sell not just to Mexican restaurants.
On ne veut pas fournir que les restaurants mexicains, c'est important pour nous. On fait partie de la culture new-yorkaise. Donc on vend aux restaurants italiens, américains. En leur montrant que nos goûts peuvent séduire leur clientèle.
And actually, I started making donuts, a couple of our classic.
Et j'ai commencé à faire des donuts. On a plusieurs classiques comme celui-là avec glaçage à la vanille. Ça c'est le Danny Boy, c'est le nom de mon mari.
Salted brown butter caramel.
Et c'est caramel au beurre salé avec noix de pécan sur le dessus.
This is Mexican cinnamon sugar.
Ça c'est sucre à la cannelle mexicaine.
I wanted to create a donut that was fluffy but not too airy.
Je voulais créer un donut léger mais pas trop, qui soit bon à manger sans rien, ni glaçage ni crème à l'intérieur. Dans la pâte, on râpe un peu de noix de muscade fraîche et on met du thé à la cannelle mexicaine.
So good.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Gracias.
Provecho.
Buen provecho. Bon appétit. Un grand merci à Alexandra Hakoun pour la traduction. Fanny Gerson, cette pâtissière d'origine mexicaine qui fait aussi de délicieux donuts. Certains observateurs américains new-yorkais les considèrent même comme les meilleurs de la ville chez Fan Fan Donuts. Alessandra Pierini, l'italienne de l'amande, et oui, on est comme ça, on passe du Mexique à l'Italie, est forcément concernée par New York, dont l'identité culinaire est très marquée par la botte.
France Inter.
Bon appétit.
On va déguster.
S'il y a une chose pour laquelle, nous, Italiens, nous avons une attitude mauvaise, doublée d'une certaine arrogance, mais alors, mais pas discrète du tout, c'est bien à propos de la cuisine italienne à l'étranger.
Ah, ça commence par un mea culpa.
Et je vais aller même plus loin. Tous les plats produits hors de nos frontières sont immédiatement qualifiés d'aberrants, de caricatures ridicules, de mauvais goût et surtout immangeables. L'agressivité la plus féroce se déploie pour la cuisine italo-américaine. Si vous êtes horrifié par des associations improbables comme Creamy Garlic Chicken Pasta, des doses inquiétantes de beurre et de fromage, si vous criez « Aiuto !» à la vue de spaghetti meatballs et si vous préférez mourir plutôt que goûter une parmigiana sans aubergine, et si quand on vous demande des pepperoni, vous sortez deux jolis poivrons du bac à légumes, la suite de cette chronique va vous intéresser. Mais ça serait beaucoup plus constructif et sincèrement beaucoup plus fair-play de considérer que nous avons, sous la chapelle sacro-sainte de la cucina italiana, différentes cuisines italiennes justifiées par autant de situations historiques, sociales et politiques qui ont donné naissance à une véritable identité gastronomique comme celle de la diaspora italo-américaine. Il s'agit en fait d'une cuisine migrante qui a évolué dans un contexte bien particulier. Entre 1870 et 1970, donc c'est juste après l'unification de l'Italie, environ 29 millions d'Italiens ont émigré à l'étranger, la plus grande diaspora volontaire de l'histoire de l'humanité. Et environ 5 millions d'entre eux ont débarqué sur la côte est des États-Unis. L'abondance et l'accessibilité de produits comme viande, œufs, fromage, conserves, huile d'olive et café ont jeté donc les bases de plats riches et opulents que nous connaissons aujourd'hui. Avec tous ces ingrédients disponibles, ils ont créé de nouveaux plats, de nouvelles associations, donc une nouvelle identité construite sur ces mêmes éléments. Et puis arrive la dépression de 1929 et la crise économique américaine. Les classes moyennes commencent à fréquenter les restaurants italiens, beaucoup moins chers que les autres, et à les apprécier. Ils adorent ces plats avec beaucoup de sauce tomate.
Beaucoup
d'ail. Des polpettes grosses comme des pommes, des macaroni sur la pizza, le poulet omniprésent, comme dans les recettes chicken scarpariello, chicken marsala, chicken vesuvio, chicken parmigiana, sans oublier bien sûr le lit de spaghetti bien cuit qui va avec. Et la moufoulette.
Ah, on l'avait oublié celle-là.
Oh là là, ça c'est une vraie preuve d'amour envers la richesse agroalimentaire italienne. C'est un sandwich énorme, un pain à la mie assez spongieuse et large comme une assiette, chargé d'une bonne dose de salade aux olives, pas moins de 250 grammes, surmonté de couches de tout un rayon italien de fromage et de charcuterie, donc bien sûr de 150 grammes de chaque pour équilibrer avec la sauce. Et plus il y a de couches, et mieux c'est, bien sûr. Et c'est à New York qui se concentre la plus grosse communauté italienne, où le véritable mythe pour ses spécialités a été surtout alimenté par des artistes d'origine italienne qui sont devenus des personnalités internationales, comme par exemple le célèbre ténor napolitain de O Sole Mio, Caruso, qui a eu un succès fulgurant aux États-Unis au début du XXe siècle. Il fréquentait assidûment des nombreux restaurants et cafés du quartier italien new-yorkais Little Italy, qui, grâce à lui, ont attiré d'autres chanteurs et vedettes de l'époque, qui aimaient bien sûr y être vus, et donc la presse derrière en parle beaucoup. Ou Frank Sinatra, fils d'immigrés italiens, qui fait partie de ces Italo-Américains de deuxième génération, qui cultivent la nostalgie de la belle patrie et de sa cuisine, et qui s'en affiche. À propos de lui, le New York Times d'ailleurs a consacré dernièrement un article sur sa pâtisserie préférée de New York, Venieros Pasticceria e Caffè, dans le East Village. Une institution, il paraît, donc au cœur de Manhattan, au décor vénitien, qui a été fondée en 1894 par Antonio Veniero, qui était originaire de Sorrento, et encore aujourd'hui, qui est tenue par la même famille.
Incroyable saga.
Et on dit que rentrer dans cette pâtisserie, disait l'article de New York Times, c'est comme accéder à un paysage de rêves de biscuits au beurre, de struffoli, susumelle, pignolate, torroni, cannoli et rococo. Ici, le crooner était comme à la maison et on lui fabriquait même ses biscuits préférés, ceux qu'on a sous les yeux.
Ils circulent déjà autour de du plateau.
Même déjà dégusté. Ce sont les biscotti Regina ou les Reginelle. Et ce sont des très anciens biscuits d'origine sicilienne qu'on fait toujours beaucoup aux États-Unis. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a énormément de blogs qui donnent la recette. Et dans cette pâtisserie trône toujours une belle photo de Frank Sinatra des années 80, où il a un biscotto Regina entre les mains, mais c'est en fait un biscuit surdimensionné qu'il avait demandé donc au pâtissier de lui faire exprès dans les dimensions bien sûr un peu américaines.
Délicieux, j'adore
ça. C'est très parfumé, très facile à faire. C'est farine, beurre, des œufs, du lait, du sucre, zeste d'orange et de citron, comme vous avez dans ce que vous êtes en train de goûter. On peut mettre de la cannelle aussi. Une petite heure au frigo, on l'étale, on en fait des petits tronçons comme des gnocchis, on l'enrobe dans le sésame, on le met au four préchauffé à 180 degrés pendant 20-25 minutes, on le sort quand ils sont bien dorés et si on a envie, donc on le laisse bien refroidir et on le trempe dans un vin un peu liquoreux, peut-être un vin sicilien comme le Marsala ou le Zibibbo. Night and day. qu'on écoute du Frank Sinatra, bien sûr.
Bravo,
c'est
Alessandra
sablé Pierini. Et croustillant à la fois, c'est délicieux.
C'est un régal, ouais, vous avez raison, Laurent
Super,
Demas.
Ça fait plaisir, ça sent très bon, j'aime aussi.
La note d'agrumes et puis surtout ces petites... graines de sésame qui sont bien toastées et qui du coup développent un goût noisté, c'est fabuleux. Dans le répertoire italo-américain, je demande, Marc Grossman, une autre douceur, un cheesecake. Mais un cheesecake un peu particulier.
Oui, en fait, Veneros a évidemment des très très bons cheesecakes à l'italienne, mais moi, ma référence de cheesecake italien, c'est un autre lieu qui n'existe plus, qui s'appelle La Fortuna, Upper West Side. Je pense que c'était 71e rue. Et c'était un café opéra avec plein de photos des chanteurs qui ont joué à Lincoln Center, qui n'était pas loin. Et avec des pâtisseries et du café italien. Et c'était un lieu préféré de John Lennon, qui habitait juste autour de la rue, là. Donc j'ai adoré ce lieu quand je l'ai découvert, quand j'étais en lycée ou à l'université. Et eux, ils avaient un cheesecake, et c'est le cheesecake italien, qui est différent. C'est fait avec la ricotta, et c'est très, très humide. Et j'adore.
Alors vous allez le
Et j'ai fait avec le sambuca, qui est difficile à trouver.
Ah
qui
oui,
est
le liqueur d'anis.
On verra ce que
vous parfumez
donne.
Également ce cheesecake à l'italienne de citron. Donc on peut parler presque d'un cousin de la torta di ricotta.
La torta di ricotta, absolument.
Oui, c'est une torta di
ricotta.
Ou du fiadone corse.
Du fiadone corse.
À base de brooch.
Là, il n'y a pas de pâte dans ce gâteau.
Il ressemble à un flan où il n'y a pas de pâte.
Oh, c'est beau.
C'est pas mal, ça.
J'adore. Puis j'adore tout ce qui est à base de ricotta,
assez moelleux. J'avais peur de vous faire goûter parce que vous êtes italien. Donc.
Ah non, c'est oh là là. Au contraire, c'est moelleux, parfumé. Ah. C'est délicieux.
Ah non, c'est quelque chose là.
On sent vraiment très bien l'anis, c'est très agréable pour le méridional que je suis.
Ah oui, voilà.
Ah oui, vraiment, oui.
C'est nostalgie du pastis,
un petit peu,
Louis Bianassi, qu'est-ce que vous pensez de ce cheesecake à l'italienne ?
Extrêmement léger. J'ai envie de dire, on renoue avec un cheesecake plus traditionnel, j'ai envie de dire. Alors que le New York cheesecake, c'est là aussi une invention locale qui associe en fait le cream cheese new-yorkais, j'allais dire. Donc, puisqu'on disait que c'était apparu dans les années 1870. Et dans l'entre-deux-guerres, l'idée est apparue de finalement incorporer ce cream cheese à la recette. Et c'est ça qui fait le cheesecake new-yorkais.
Et souvent, le cheesecake new-yorkais a aussi une pâte.
Ah bah, il a une pâte et souvent qui est faite en fait avec des crackers Graham. C'est un peu ça la tradition.
Il
est 100% américain. Mais c'est une spécialité qui est devenue une spécialité de la communauté juive, là encore, et puis de New York dans son ensemble. Alors qu'à l'origine, ce n'était pas du tout une spécialité juive. Mais il y avait tout un tas de traditions de cheesecake qui venaient d'Europe. Et là, ce qu'on est en train de goûter, j'ai envie de dire, on revient à ces traditions initiales.
20 sur 20 pour votre Italian Cheesecake, Marc Grossman. Et en plus, la bonne nouvelle pour nos auditeurs et auditrices, c'est que la recette est sur franceinter.fr, à la page On va déguster. New York, les recettes cultes, chez Marabout, c'est signé par vous, Marc Grossman, et c'est un livre à référence. Également une actu, tiens, des ateliers de challah.
Oui, donc j'ai fait un autre livre qui s'appelle Shabbat, si je peux.
On vous a reçu à cette occasion.
Oui, et on en a parlé. Et justement, donc j'ai commencé un atelier de challah. C'est le pain de brioche traditionnel de Shabbat.
Qui est tressé.
Oui, qui est tressé. Et on va faire les jeudis soirs en préparation pour avoir un pain ou deux. Le vendredi, on va faire ça les jeudis soirs à Bob's Bake Shop à partir du 1er juin.
Toutes les infos à retrouver, ça va se passer, comme vous l'avez dit, à Bob's Bake Shop, votre adresse du 18e arrondissement.
C'est ça.
Atelier Challah à partir du 1er juin, vers 18h30. Les enfants sont les bienvenus. Un grand merci à tous pour cette belle émission. Merci Marc, merci Alessandra, merci Loïc.
Merci beaucoup
Laurent, à la prochaine. Je précise à nos auditeurs et auditrices qu'on a un carnet d'adresses bien fouillé, bien garni, qu'on vous a spécialement concocté. J'y ai passé plus de 15 jours il y a quelques temps. En ligne sur franceinter.fr à la page On va déguster si vous avez la chance de voyager bientôt dans la grosse pomme la semaine prochaine. On décrypte la passion pour les livres anciens de cuisine avec deux collectionneurs qui nous partageront leurs coups de cœur mais également leurs recettes préférées. Sabine Buquet et Stéphane Sollier. À dimanche prochain si vous avez encore faim.